Merci Sonia, bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Mounia Van de Castel, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Cyril Brenning. À la réalisation Marie Placé, à la prise de son Élise Le, traduction Xavier Combes.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besserie.
Nous consacrons cette semaine à la négociation qui, de Machiavel au dilemme du prisonnier, n'a cessé d'être décryptée et perfectionnée tant elle recèle en elle les logiques du pouvoir. Notre intrigue d'aujourd'hui se déroule en Europe, au cœur de la crise grecque. La duplicité des personnages décrites est si stupéfiante qu'on la croirait inventée. Pourtant, le préambule du livre est sans équivoque. L'auteur s'est appuyé sur des notes prises lors de réunions officielles et il n'est autre que Yanis Varoufakis. Nous commençons aujourd'hui les pourparlers de cette semaine de négociation en compagnie de Yanis Varoufakis, économiste et ancien ministre des Finances de la Grèce, qui publie « Conversations entre adultes dans les coulisses secrètes de l'Europe », publié aux éditions « Les liens qui libèrent », un ouvrage sur les coulisses de l'Europe et les négociations au moment de la crise grecque, qui va nous présenter aujourd'hui. À 14h50, Mounia Van de Castel sera comme chaque jour parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Yanis Varoufakis, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, pourquoi cette forme ? Vous avez écrit un livre qui ressemble un peu à un polar. Et pourtant, il s'agit de négociations politiques, pourtant il s'agit même d'économie, et peut-être même d'une des plus graves crises économiques.
It is a reflection.
En fait, il s'agit de réflexion sur la crise profonde de l'Europe. Il s'agit de négociations entre l'un des représentants d'un des États membres de l'Union européenne et le reste de l'Europe et la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Et ces négociations, évidemment, c'est un thriller. C'est alors que ça ne devrait pas être le cas. Ces négociations devraient être un processus démocratique normal dans le contexte de l'Union européenne. Mais au lieu de cela, on se retrouve dans un coup d'État. On se retrouve avec des menaces, de la violence au niveau de la politique et de l'économie. Et je ne fais que relater les faits. L'Europe souffre d'un problème systémique en son cœur.
Mais pourquoi cette approche un peu sensible ? Est-ce que c'est la volonté de s'adresser à un lectorat extrêmement large et non pas à des spécialistes ? Vous êtes un universitaire, vous auriez pu écrire un essai, vous êtes un économiste. Pourquoi le choix de cette forme sensible ?
I truly believe that Europe is at a crossroads.
J'ai la conviction que l'Europe est à un carrefour. Nous sommes confrontés à une version postmoderne de l'année 1930. Alors même où nous parlons, je choisis l'année 1930 à dessein. 1930 a suivi l'effondrement du secteur financier Wall Street 1929, qui était le point culminant de déséquilibre et d'impossibilité de poursuivre les processus économiques dans le cadre du capitalisme des années 20. Il y a eu une devise commune qui s'appelait l'étalon or. Ça a créé des bulles qui ont éclaté en 29. Puis en 30, les démocrates en Europe n'ont pas pu se rejoindre de manière transnationale pour se confronter à la situation et éviter l'avènement du racisme, du nationalisme et évidemment les conséquences n'ont pas besoin d'être décrites. À mon avis, nous sommes dans une situation similaire, pas identique heureusement, mais similaire en ce moment en Europe. Si vous regardez la mauvaise gestion de la crise européenne de la zone euro, eh bien, c'est un petit peu comme la mauvaise gestion de l'étalon or en 1930, crise initiée par l'effondrement de Wall Street. Chez nous, c'est 2008. Avant, c'était 1929. Ajoutons à cela la tendance sidérante qu'ont nos responsables politiques de transférer les pertes bancaires sur les épaules des contribuables les plus faibles d'Europe et l'avènement de politiques autoritaires de la part de l'établissement. et du populisme, de la xénophobie et du racisme. Dans la population, on y assiste en France avec Marine Le Pen, on voit ça en Allemagne aussi. En Grèce, il y a un parti nazi qui siège au Parlement. Par conséquent, tout cela étant dit, je me suis senti l'obligation de raconter cette histoire. En effet, c'est crucial pour comprendre l'aspect historique du carrefour dans lequel nous nous trouvons. C'est très spécifique s'agissant de la Grèce, mais évidemment c'est dans la grande histoire avec une importance universelle. Et même encore au-delà de cela, je crois que ce que j'ai vécu et que ce que je raconte là, c'est de la tragédie. Les puissants que j'ai rencontrés ont en eux ce gros pouvoir et en même temps, ils sont impuissants. Ils ont été coincé, comme l'était Macbeth, ou Othello, ou Oedipe, enfermé, piégé dans une tragédie classique d'individus qui ont à la fois le pouvoir, mais qui sont impuissants.
Quand on raconte une histoire, on la raconte toujours d'un certain point de vue. Et dans la forme que vous avez choisie, cette forme romancée, mise en scène, on pense à ce début de livre où vous parlez d'une conversation avec Larry Summer qui vous pose la question, est-ce que vous êtes un insider ou un outsider ? Et dans votre manière de raconter, on ne sait pas trop si vous êtes un insider ou un outsider. Vous êtes le ministre des Finances grec et pourtant vous parlez du point de vue presque d'un romancier.
Storytelling.
C'est du récit. Je raconte une histoire. Je suis universitaire, je suis économiste, donc je traite de sciences sociales. Il faut savoir prendre son point de vue scientifique et le présenter de manière à intéresser le public. C'est absolument indispensable. On n'est pas dans des mathématiques ou de la physique où l'on peut faire de l'abstraction de la réalité sous forme d'équations. Les phénomènes sociaux constituent des objets étranges parce que nous sommes simultanément leurs créateurs mais aussi les analystes. Et donc le récit est fondamental. C'est pourquoi les meilleurs experts en sciences sociales savent raconter des histoires pour faire la démonstration de ce qu'est la réalité. En ce qui me concerne, étant donné que mon objectif était d'apporter à tous les citoyens potentiellement intéressés la connaissance de ce que c'est que d'être dans les couloirs du pouvoir, et la raison est toute simple d'ailleurs, la transparence doit précéder la démocratie, c'est nécessaire. Et étant donné cela, il faut que je rende les choses intéressantes, tout en me maintenant à un récit factuel et le plus succinct possible. C'est pas facile d'écrire un livre comme ceci.
Dans le début du livre, vous faites allusion au lanceur d'alerte. Est-ce que c'était ça votre démarche ? Un ancien ministre qui devient une sorte de lanceur d'alerte des institutions de Bruxelles ?
Je n'ai jamais eu l'intention d'être lanceur d'alerte. Mon objectif est d'aider les Grecs à échapper à cet emprisonnement de la dette dans laquelle il se trouvait depuis 2010. Mes moyens, je les ai choisis de façon modérée. Je m'explique. J'ai fait des propositions qui étaient bonnes pour les créanciers et aussi pour les Grecs. Et puis, je me suis trouvé dans une expérience fascinante que je décris dans mon ouvrage. Et la meilleure façon de résumer cela, c'est de dire ceci. J'ai eu une discussion avec Christine Lagarde. Elle m'a dit que ce que je proposais, ce que j'expliquais, les politiques que je faisais valoir s'agissant de la dette grecque et ce qu'il fallait faire, et les modalités fiscales qu'il fallait adopter. Elle m'a dit, mais écoutez, vous avez raison. Ce programme imposé à la Grèce, ça ne peut pas fonctionner. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, moi j'étais sidéré par cette réponse de Christine Lagarde. Voilà, Madame FMI, le FMI étant évidemment fondamental dans ces politiques, qui me dit à moi, eh bien écoutez, ces politiques ne sont pas difficiles, elles sont impossibles à mettre en œuvre, elles ne fonctionneront pas. Et elle poursuit son propos en disant, vous avez raison. raison, mais il y a un capital politique investi dans ce programme voué à l'échec que l'on ne peut pas reculer. Et votre crédibilité, a-t-elle dit, dépend de l'acceptation de ce programme et de nous aider à le faire valoir.
C'est le capital politique.
Oui, leur capital politique, celui de l'establishment de la BCE, du FMI, de la Commission, du gouvernement allemand et des gouvernements oligarques grecs précédents. Donc, je me retrouve avec Christine Lagarde et je ne prends pas ça personnellement, c'est un message que tous les gens de l'establishment me disaient, vous avez le choix. Soit je reste fidèle aux électeurs et je reste fidèle à mes promesses, donc vous savez, donc vous échappez à cette situation intenable, ou alors je deviens un insider. Et à ce moment-là, je suis tous les autres responsables politiques et ceux qui les ont précédés. Mais je dois dire que c'est un petit peu la même chose pour ceux qui m'ont suivi d'ailleurs. Autrement dit, en étant insider, il faut continuer à faire semblant qu'un programme conçu pour échouer pourrait fonctionner. Il m'était clair que moi, je ne voulais pas, c'était pas mon objectif d'être ministre des Finances. Moi, je voulais faire un travail, mener un programme. Je n'ai pas pu le faire. Par conséquent, j'ai changé et je suis devenu lanceur d'alerte.
C'est l'armée même de la négociation que de constater que les personnages, les acteurs du système sont pris dans des stratégies. Pour que l'on comprenne ce qui s'est passé au moment de la crise grecque, il faut que vous nous expliquiez d'abord cette crise et les conséquences surtout de l'austérité sur l'économie grecque.
That is correct. You need to understand.
Oui, c'est vrai qu'il faut comprendre les conséquences, mais il faut comprendre aussi quelques éléments qui précèdent cela. Pourquoi les grands pouvoirs, pourquoi les forces de l'establishment ont-elles agi de la sorte? La réponse est très vilaine. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'économie, en réalité. C'est uniquement des jeux de pouvoir. En 2009, BNP Paribas, Société Générale, Deutsche Bank, Finanzbank, les banques allemandes et françaises ont été en banqueroute. Elles ont été sauvées par les contribuables français et allemands. On est à quoi, là? 600 milliards d'euros. Quelques mois plus tard, à nouveau la banqueroute. Donc la faillite grecque, donc de l'ordre de 200 milliards d'euros, a commencé à changer un petit peu le fonctionnement d'autres rouages, donc la Grèce, l'Irlande et ainsi de suite. Étant donné que nous avons une banque centrale qui ne fonctionne pas comme la Fed et ne peut pas aider directement les gouvernements, il aura fallu que les contribuables européens sauvent à nouveau leurs banquiers incompétents et imbécile. Donc, le système devient toxique pour Sarkozy et Merkel. Et ils se tournent vers vous, les contribuables, pour dire, eh bien, il faut encore sauver les banques. Donc, ils ont donné une somme d'argent énorme à l'État grec pour qu'il rembourse, lui, Société Générale, BNP Paribas, Deutsche Bank et ainsi de suite, sous forme de prêt. Et ensuite, il faut qu'ils aillent au Parlement, ici à Paris et à Berlin et dans d'autres pays européens. Pourquoi ils ont accordé ce prêt à la Grèce? La justification, c'est, tenez-vous bien, la solidarité envers ces méditerranéens corrompus, paresseux, qui font de l'évasion fiscale. Alors évidemment, les prêts se font avec des intérêts et des conditions très très exigeantes, mais quand vous donnez le prêt le plus important de l'histoire de l'humanité à un État en banqueroute, aucun fonds n'est destiné à l'investissement, mais à ce moment-là, ce que vous faites, la condition, c'est l'austérité. Donc, on ne peut même pas repayer les anciennes dettes, on se retrouve avec une nouvelle dette, et bien c'est extrêmement simple à comprendre. N'importe qui pourrait comprendre que, en effet, comme le disait Christine Lagarde, ça ne peut pas fonctionner.
Donc les plans économiques, vous parlez des plans de sauvetage de la Grèce, les plans ont été intrigués eux-mêmes dans des logiques politiques qui ont fait qu'ils ont été présentés comme l'inverse de ce qu'ils étaient. Donc la stratégie n'est pas simplement au niveau des acteurs, mais au niveau même de l'idéologie avec laquelle sont vendus ces plans. Yanis Varoufakis.
You're quite right. Ideology.
Oui, c'est une bonne analyse. L'idéologie, c'était en fait le masquage de tout ça, l'emballage de tout ça. Il faut se souvenir qu'en 2009-2010, l'establishment était en état de panique. Le système bancaire s'était effondré totalement. C'était une crise qu'on n'avait pas vu venir, qu'ils n'avaient pas vu venir. Ils pensaient qu'il y aurait un nouveau paradigme. Les banquiers étaient les maîtres et les maîtresses, surtout les maîtres du monde. Et ces banques ont fait faillite. Et les Sarkozy, Merkel, Lagarde ont été complètement paniqués. Ils se sont dit, oula, comment sauver les banquiers? Donc ils ont pris une énorme somme d'argent pour le donner à l'État grec, pour que les Grecs payent les banques, et ensuite ils sont arrivés avec leur justification. C'est pourquoi on est dans de la tragédie. C'est pourquoi on est chez Shakespeare ou dans la tragédie grecque, Macbeth. Macbeth commet un crime. Non pas parce qu'il le souhaite, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il doit faire à ce moment-là. Puis un autre crime pour couvrir, pour cacher le premier crime. Puis un troisième crime pour dissimuler le deuxième. Ce n'est pas une conspiration, c'était comme ça que ça fonctionnait. Voilà, l'establishment qui ne savait pas quoi faire, ne comprenait rien à ce qui se passait, et qui, de manière très cynique, a sauvé les banquiers et a transféré les coûts de ce sauvetage aux contribuables les plus faibles d'Europe, d'abord les Grecs, puis les autres. Aujourd'hui, on se retrouve avec un marché du travail complètement stagnant en France, le fait qu'il y ait des taux d'intérêt négatifs qui détruisent les fonds de pension en Allemagne, le fait qu'il y ait une majorité d'Européens dans l'UE qui répondent à la question la question, est-ce que vos enfants auront une meilleure vie que vous ou une vie pire? La réponse est pire. Tout ça, c'est une réaction en chaîne de crimes contre la logique.
Dans Conversation entre adultes, Yanis Varoufakis, vous parlez à la première personne, je, et il y a eu les élections, Syriza gagne ces élections, et vous avez un plan pour négocier une restructuration de la dette grecque. Quel était ce plan et qu'est-ce que vous aviez imaginé de cette négociation européenne avant de la vivre ?
Le plan, on peut le résumer en deux mots. Désobéissance constructive. Tout d'abord, on arrive avec des propositions constructives et modérées. Propositions qui, d'après vous, seront bonnes pour vous, autrement dit pour la Grèce, mais aussi pour les créanciers. Et avantageuses, pour tous. Ça, c'est l'aspect constructif. Mais, n'étant pas naïf.
Non, d'ailleurs, vous aviez même prévu un certain nombre de choses, puisque vous aviez avec vous, dans votre équipe même, des insiders, des technocrates formés à l'école libérale et qui connaissaient bien le système du FMI et de la BCE. Donc vous-même, vous aviez une stratégie.
Oui, j'essayais d'être pragmatique. Si vous regardez la liste de mes coéquipiers, il n'y a pas un seul gauchiste. Moi, je suis gauchiste, hein, je l'avoue. Mais je me suis entouré de technocrates, comme vous dites, et de néolibéraux, qui, eux, savaient où les cadavres étaient enterrés et comment fonctionnaient la Troïka et les banquiers. Donc, là, je suis en France, à France Culture, je suis ravi, merci de m'avoir invité. Prenons la banque Lazare, grande banque d'investissement, et Daniel Cohen, en particulier, m'entourait dans mes efforts à mettre en place quelque chose de très rationnel, de très logique, que Madame Merkel pourrait vendre à ses chrétiens-démocrates comme étant son idée. C'était ça l'aspect constructif, mais je savais qu'il ne voulait pas un accord avec nous. Par conséquent, on en arrive à la désobéissance. Ça, c'est très important aussi. Par conséquent, le plan était conçu pour contrecarrer ce qui se passe lorsque l'on injecte les conséquences des propositions, et pas seulement les propositions, dans ce qui devait devenir les procédures.
Et pour ajouter à l'ambiguïté de la situation, Syriza faisait alliance avec les Grecs indépendants, ouvertement nationalistes, menés par un homme très contesté. Et donc il y avait cette espèce d'alliance étrange, mais qui avait été choisie parce qu'on savait qu'il ne flancherait pas sur la question des négociations européennes et qui qu'il mettait en sécurité la coalition.
It was a very strange alliance, wasn't it?
Alliance étrange, j'en conviens.
But it was irrelevant to the negotiations.
Mais ça n'a pas eu grande incidence sur les négociations. Ce n'est pas pertinent. Les Grecs indépendants, les NL, comme on les appelle en Grèce,
for me, personally,
à mes yeux,
as a progressive,
moi qui suis quelqu'un de féministe, de progressiste, constitue un cauchemar. Je n'avais pas du tout d'être aux côtés de ces gens-là. Ce sont des gens de droite, d'extrême droite, xénophobes. Ce sont des résidus d'un passé qu'on souhaite oublier. Mais Tsipras, mon premier ministre, avait signé un accord avec eux. Et l'accord était très simple et très cynique. Leur leader s'est vu accorder le ministère de la Défense. Il adorait porter des uniformes et défiler, cet homme-là. Et il était satisfait de ce poste. Et Alexis Tsipras a pu tirer de lui un engagement qu'il n'interviendrait pas du tout dans les négociations. Donc, vous voyez, c'est l'alliance de la carpe et du lapin, mais ça n'a rien à voir avec les négociations.
Vous voilà donc à Bruxelles avec l'idée de renégocier, de négocier en tout cas une restructuration de la dette. Quelle a été votre surprise en arrivant à Bruxelles ?
I was surprised by
ma surprise était due à une très forte contradiction. À huis clos, mes propositions pour la restructuration de la dette ont rencontré de l'approbation par pratiquement tout le monde. Christine Lagarde, Paul Thompson, les assistants, le Danois responsable du bureau européen du FMI. Cet homme-là, Paul Thompson, m'a dit que j'étais trop modéré, que la restructuration de la dette devait être plus profonde. Il a dit, prenons 52 milliards, mettons ça comme ça, là. Et moi, j'ai dit, oula, du calme, parce que ce sera difficile à vendre à Berlin. Donc imaginez, moi parlant au gars de la FMI disant que c'était trop radical. Bon.
Mais ça, c'était au stade de la théorie.
Non, on est dans la pratique. On est à Bruxelles, on est en discussion à huis clos avec le FMI. Moi, je leur propose une restructuration de la dette dont ils pensent qu'elle est trop modérée. C'est pas de la théorie, hein, c'est de la réalité que je vous raconte là. Mais
we moved into the onto the floor of the Eurogroup.
À ce moment-là, on arrive à l'Eurogroupe.
My proposals were not rejected.
Mes propositions n'ont pas été rejetées.
Why?
Pourquoi?
Because they were never discussed.
Mais c'est tout simple, on n'en a jamais parlé.
This is a message that I've been sending.
Ce message, je l'ai donné à mes amis britanniques pour leurs négociations du Brexit ou contre le Brexit. Et depuis 18 mois, je suis en contact avec mes amis britanniques, aussi bien du côté travailliste que conservateur. Je leur ai dit, vous allez négocier pour le droit de négocier. Et vous allez échouer. Moi, j'ai été dans cette situation-là, à l'Eurogroupe. Je me battais comme un diable pour avoir le droit de négociation pour mes plans de restructuration de dette. Et ce droit de ne pouvoir négocier ne m'a jamais été accordé.
Quels sont ces barrages à la négociation que vous avez rencontrés, Yanis Varoufakis?
Vulgar and impossible to fathom obstacles.
Des obstacles d'une vulgarité incroyable et impossible à comprendre. Quelques exemples.
First Eurogroup I attended.
La première réunion de l'Eurogroupe où je me suis rendu.
I explained the basic idea.
J'ai expliqué l'idée de base qui sous-tendait mes propositions. Wolfgang Schäuble prend la parole, ministre des Finances allemand. Il prend la parole et sans aucune référence à ce que je venais de dire, profère une phrase qui vous laisse quoi ? Je cite,
verbatim.
Les élections ne peuvent pas, il ne faut pas permettre aux élections de changer la politique économique. Ça, c'est le premier exemple. Hein. Maintenant, le deuxième exemple. Lors de la réunion, et pas simplement celle-là, mais les réunions qui s'en suivirent à l'Eurogroupe, j'ai demandé au secrétariat de distribuer aux autres ministres des Finances de la zone euro et aux représentants de la BCE et aux représentants du FMI et de la Commission un document de 10 pages avec des chiffres, des estimations, de vrais chiffres pour donc expliquer ma proposition pour la restructuration de la dette. Le président de l'Eurogroupe a dit au secrétariat de ne pas faire circuler ce document. Et il s'est tourné vers moi, il a dit, si vous insistez, si vous voulez vraiment que votre document soit distribué, il faudra que je suspende la discussion. Je n'en revenais pas. Les bras m'en sont tombés. J'ai dit, Jeroen, pourquoi ? On discute. Moi, je suis le ministre des Finances de la Grèce. Je mets une proposition sur la table et je voudrais qu'on en parle. Il m'a dit non. Parce que si l'on reçoit ces propositions, il faudra les faire passer au Parlement fédéral d'Allemagne et à d'autres parlements pour une discussion préalable. Et j'ai dit pourquoi ? Il ne s'agit pas d'une décision, il s'agit d'une proposition pour discussion. C'est un document dont on va s'entretenir. Bon, en résumé, il n'y a pas eu de discussion sur mes propositions au sein de l'Eurogroupe parce que cette discussion était interdite.
De prime abord, on se dit, voilà, conversation entre adultes, ça révèle la duplicité de certains personnages, leur lâcheté, des revirements. Mais en réalité, en avançant dans le livre, on a le sentiment plutôt que c'est les institutions qui se protègent elles-mêmes, sans même que ce soit vraiment des logiques humaines.
Oh,
c'est bien pire que cela. Les institutions, comme vous dites, étaient divisées, il y avait un clivage dans les institutions. L'un des aspects les pires de ces négociations, si tant est qu'on puisse les appeler négociations, c'est que je ne savais pas à qui parler. J'ai parlé à Christine Lagarde et nous sommes mis d'accord sur des questions importantes comme la restructuration. Puis j'ai parlé à Paul Thompson, donc son assistant, le numéro 2 du FMI. Un jour, le lundi, il était d'accord. Et puis le mardi, lors de la réunion de l'Eurogroupe, il disait le contraire de ce qu'il avait dit la veille.
His own underling
donc,
in Athens,
sous lui, à Athènes, in Brussels, à Athènes ou à Bruxelles,
would be speaking with the voice of Wolfgang
parlait, et on avait l'impression d'entendre
so
Wolfgang Schäuble. Donc, vous avez une désintégration verticale dans la hiérarchie des institutions. Vous avez le N+1, le N-1, le N-2 qui ont des comportements différents et des propos différents.
Then,
puis,
there was the difference of opinion,
arrive
very serious difference
une différence d'opinion très sérieuse entre les différentes institutions.
So the Troïka presents itself
ainsi,
as a unitary
la Troïka se présente comme étant unifiée, mais ce n'est pas du tout le cas.
Pierre Moscovici
n'était jamais en désaccord avec moi. Jamais. Il était d'accord avec moi, quelle que soit la proposition que je fasse.
But when we appeared in the Eurogroup,
au sein de l'Eurogroupe,
and the IMF was asking for
et lorsque le FMI demandait un démantèlement de toute protection des droits du travail,
Moscovici
regardait ses chaussures, ou alors il était d'accord avec les autres. Alors qu'une heure avant, il m'avait dit à moi, mais je serais contre. Puis, lorsque Jean-Claude Juncker ou Moscovici faisaient une proposition proche de la mienne, le président de l'Eurogroupe ou les gens de la BCE ou Wolfgang Schäuble disaient non. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Henry Kissinger dans les années 70? Le problème de l'Europe, c'est quand on décroche le téléphone, eh ben on ne sait pas qui appeler. Eh bien, c'est ça le problème.
Il faut que vous nous racontiez, Yanis Varoufakis, la présence de la Troïka en Grèce et à quel point elle venait justement mettre en péril une forme de souveraineté et la démocratie du pays à ce moment-là.
Let me give you just one example.
Je vais vous donner un exemple de cela.
It's quite extreme.
Un exemple assez extrême.
As part of the second
dans le cadre du deuxième prêt en 2012, ce prêt a été accordé sous condition de l'élimination de la souveraineté de l'État grec dans un certain nombre de domaines.
the crucial departments.
Des domaines cruciaux. Tout d'abord, le fisc. La Troïka a eu la main mise sur le fisc grec. Avec la désignation du directeur du trésor, du fisc grec, il fallait donc l'accord de la Troïka, le licenciement de ce responsable avec l'accord de la Troïka. Le fonctionnement des services du fisc avec l'accord de la Troïka. De même, avec le GFSF, chargé de la stabilité financière et qui maîtrisait donc les banques en banqueroute, sauvées par des fonds publics, les actions étaient passées dans ce fonds, GSFS, mais la direction était désignée et contrôlée par la Troïka, la BCE, la Commission et le FMI. Donc, le fisc, la Troïka. Les banques, la Troïka. Le bureau des statistiques grecques, la Troïka.
Sans jamais avoir de compte à rendre devant le Parlement grec ?
Non. None at all.
Non, jamais.
No control. The Greek Parliament,
zéro contrôle. Le Parlement grec n'a pas le droit de désigner ou de licencier ses responsables. Et ensuite, une nouvelle institution dont le but était de céder des actifs, eh bien, ça aussi c'était maîtrisé par la Troïka.
Alors,
maintenant, un exemple hilarant et triste en même temps. Lorsque j'ai été nommé ministre des Finances, j'ai découvert que le salaire des dirigeants de banque nommés par la Troïka, donc prenons le salaire du PDG des banques, 220 000 euros par an, lorsque le premier ministre grec, lui, est payé 105 000 euros par an. Et j'ai dit, bon, j'ai vérifié les chiffres et moi j'étais responsable pour fixer les salaires. Donc j'ai dit réduction de salaire de 40% pour ces gens-là, ils sont fonctionnaires grecs, parce que 40% c'était une réduction que l'on appliquait dans tout le secteur public et les salaires moyens de tous les Grecs avaient baissé de 40%. Et ces gens-là, pourquoi ne pas leur donner cette, enfin de leur imposer cette réduction de 40% de leur salaire? On se serait dit que les créanciers seraient d'accord pour dégager de telles économies. Mais non. Ils m'ont critiqué. Ils m'ont menacé. Ils m'ont mis la pression. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour inverser ma décision parce que ces gens-là avaient été désignés par eux. C'était eux qui les avaient mis en place. C'était leurs amis. Tout ça pour démontrer l'incroyable perte de souveraineté. Qu'est-ce qui s'est passé après ma démission? J'avais réduit leur salaire pour passer à un niveau plus faible, mais après ma démission, leur salaire est non seulement revenu au niveau initial, mais même il a été augmenté. We came from the four corners, we are the raw waters, the cause, the four horsemen. We drink from the water, the pores, we carry the river, the reservoir, the residue. Rising waves, sea spray, the inevitable churn and crush. Many voices in our vapors, we surge and gush. We were steam and a distant heat. We move rapid over landscape, gathering speed. Desert, land, city, forest and beach. Heading for the people asleep, ready to bleed. Unleash the torrents, come clean. Carry many lessons, let the water teach. But you better learn to swim or you'll get caught beneath. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-pushed, but the puddles keep forming, don't fall in. And they will run to the highest hill, consult the old books, ask the dead mystics for wisdom they don't trust. The people will flock to the garages, stockpile canisters of gasoline, tinned fish and bandages. Count the seconds between a thunder and a lightning, scared of every other body running round frightened. We can't carry on like this, you will mutter, staring with disgust at the people weeping in the gutter. Yet we made no trouble, we played by the rules. I worked double shift to get my kids through school, but you were so focused on your own little part, you went plumbing on blind in the dark, no heart.
now we're not the dread storm that will end things. We're just your playful gale force friend in these end times. Come to remind you, you're not an island. Life is much broader than borders, but who can afford to think over the walls of this fortress? Of course, it's important to provide roof and floorboards for you and yours and be secure in your fortunes. But you're more than the three or four you'd go to war for. You're part of a people that need your support. And whose world is it if it belongs to these corporates? The people are left on the doorstep, torture, nauseous and tortured by all that they lost. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, hard-talking, half-dead from exhaustion, hard-pushed, but the puddles keep forming, don't fall in.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Besserie.
La première chose à dire, c'est qu'il était compliqué de savoir ce que la Grèce et l'Union européenne faisaient lors de ces négociations. Et ça me rappelle une expérience classique en économie comportementale appelée le jeu de l'ultimatum. Supposons que l'on vous donne 100 livres et que vous puissiez diviser cette somme entre nous deux. Les règles du jeu sont les suivantes. Vous faites une offre. Je l'accepte ou non. Si je l'accepte, c'est marché conclu. Si je refuse, nous repartons tous les deux les mains vides. Dans cette situation, la théorie économique classique dit que vous devriez m'offrir une livre. En effet, je devrais accepter une livre car c'est toujours mieux que rien. Mais si on joue réellement à ce jeu, à moins que vous m'offriez au moins 20%, je dirais non. Mettons que vous m'offriez 10 livres. Je dirais non, en étant poli, et nous repartirions les mains vides. Remarquez que l'économiste vous conseillerait de proposer une livre, car il l'acceptera forcément. Considérant cela, ça ne m'étonne pas que l'ex-ministre des Finances grecques soit un théoricien des jeux.
On entendait Richard Taylor, fraîchement nommé prix Nobel d'économie, et qui décrit la théorie des jeux, l'ironie du sort. Yanis Varoufakis veut que vous soyez un spécialiste en économie de la théorie des jeux. En quoi elle nous éclaire cette théorie sur la négociation que vous avez pu avoir à mener à propos de la dette grecque?
Not greatly.
Oh, la théorie des jeux n'éclaire pas les choses grandement. Je vais vous expliquer pourquoi. La théorie des jeux, c'est très intéressant. Lorsque il y a des équilibres multiples. Autrement dit, lorsqu'il y a plusieurs résultats possibles à la suite d'un comportement rationnel. À ce moment-là, la théorie des jeux devient intéressante. Si on est dans une situation où vous savez quoi faire, quelle que soit l'action de votre adversaire,
ce
n'est pas vraiment un jeu. Aux échecs, quand on joue aux échecs, c'est un jeu parce que ce que vous faites dépend de ce que vous pensez que l'autre va faire. Et donc vous faites des hypothèses quant aux réactions des autres et ça détermine ce que vous allez faire. Donc, si aux échecs, vous suiviez une stratégie indépendamment de ce que fait l'adversaire, les échecs, ce ne serait pas un jeu intéressant. La négociation dont on parle, et c'était une situation ennuyeuse en fait. Pourquoi est-ce que je dis cela? Contrairement à ce que disaient les médias quand ils disaient que j'étais joueur, que je me dépeignais comme étant intransigeant, que je n'allais pas changer de point de vue, mais que je changerais de point de vue si l'adversaire ne changeait pas de point de vue. La réalité, c'était qu'il y avait trois résultats possibles et avec une hiérarchie, un classement très clair. Les résultats étaient les suivants. Tout d'abord, un accord mutuellement avantageux avec les créanciers. Ça, c'était le scénario que je préférais. Il y avait deux autres possibilités. Tout d'abord, le Grexit, donc la Grèce qui sort de la zone euro. Troisième possibilité, c'est celle que l'on connaît aujourd'hui, autrement dit la capitulation et l'extension de notre durée d'emprisonnement dans cette prison de la dette. Et voilà les trois résultats. Donc, en bref, accord mutuellement avantageux. Le Grexit en deux, et en trois, la dette. et l'emprisonnement dans la dette. Pour moi, c'était le classement, c'était ça, les résultats. L'accord mutuel, c'était évidemment ma préférence, c'est ça qui retenait ma préférence. Le Grexit aurait été mieux que la capitulation et cette prison de l'endetté. Donc si vous établissez les préférences, à ce moment-là, ce n'est pas un jeu. Vous mettez en avant des propositions constructives pour un accord mutuellement avantageux, et puis si on vous met un flingue sur la tempe et qu'on vous dit non, il faut choisir entre le Grexit et la prison de la dette, et si vous dites, ben, moi, je ne vais pas signer un autre contrat pour aller en prison, virez-moi. Et ça, ça va vous coûter 1000 milliards d'euros. Ce n'est pas un jeu, ça. Donc on n'est pas du tout dans la théorie des jeux, on est sur un cheminement, voilà.
Yanis Varoufakis, qu'est-ce qu'on peut dire de la rationalité? On a le sentiment que la duplicité des acteurs en présence est immense, mais en réalité, est-ce qu'ils suivent tous des stratégies nationales, des stratégies collectives, des stratégies au contraire de coalition? Est-ce qu'il y a une place pour la rationalité?
Ah non, les choses sont bien plus vulgaires que ça. Certes, il y a de la rationalité dans leur façon de négocier. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on signe un accord avec le gouvernement élu, et si cet accord n'est pas mauvais pour la Grèce, pas bon non plus, hein, mais pas mauvais pour la Grèce, alors les Espagnols, les Portugais, les Irlandais, les Italiens, et au bout du compte, les Français se mettre en tête une idée très dangereuse selon laquelle on peut élire un gouvernement de façon démocratique et faire face à cet establishment. Donc, il s'agit de faire attention au fait que ces négociations n'aient jamais lieu. Il faut constamment éviter de donner le droit de négocier.
Alors ça, c'est le nœud de l'affaire et c'est le nœud de votre livre. C'est votre première rencontre avec Dijsselbloem. Le moment où justement vous lui expliquez ça, que vous avez été élu justement pour ne pas accepter ce qui était proposé à la Grèce, mais pour restructurer cette dette grecque.
The discussion with Dijsselbloem was even more basic than that.
Oh, la discussion avec Dijsselbloem, c'était encore plus rudimentaire que cela. On ne s'est pas lancé dans une discussion sur la restructuration de la dette, parce que lui, son objectif, c'était de ne pas négocier. Son objectif, c'était de menacer. Si Varoufakis veut négocier, eh bien, les banques grecques vont être fermées. C'est absolument sidérant. C'est le troisième jour, j'étais ministre depuis 3 jours, il est venu me voir à Athènes. Il a refusé de parler du fond, de quoi que ce soit. Il a posé une question. Allez-vous mettre en œuvre le programme précédent? J'ai dit, mais écoutez, nous on est élus avec un mandat pour renégocier le programme précédent. Yaron Dijsselbloem, donc. Moi, je ne suis pas là pour m'opposer à vous. Asseyons-nous, discutons pour trouver des moyens pour qu'il y ait reprise en Grèce pour que vous, vous recouvriez votre argent. Et il m'a dit, si vous insistez... Non, attendez, je reviens. Ça ne fonctionnera pas, m'a-t-il dit. Et il a poursuivi. Si vous insistez... Si vous tenez vraiment à renégocier ce programme, eh bien, on arrête tout et le programme s'effondre. Par cela, il entend que le programme est interrompu, la BCE donc force la fermeture des banques grecques. Donc, voilà un gouvernement fraîchement élu, le ministre des Finances pimpant au bout de 3 jours, à qui on dit soit pas de changement, soit fermeture totale des banques grecques. On appelle ça comment? Un coup d'État. On utilise donc tous les moyens pour faire ça. C'est un coup d'État, rien d'autre.
Vous n'avez pas démissionné tout de suite, Yanis Varoufakis, et vous vous êtes dit que vous alliez d'abord chercher à comprendre le fonctionnement des institutions de Bruxelles. Alors vous avez fait le tour des capitales et des institutions européennes pour essayer de comprendre où est-ce que vous pourriez avoir des appuis.
Of course I didn't resign.
Non, je n'ai pas démissionné immédiatement, évidemment. Moi, j'ai été désigné par le Premier ministre élu par les Grecs. Moi, je n'ai pas été nommé par Dijsselbloem, Lagarde ou Schäuble. Donc, j'avais un mandat et mes électeurs, si je puis dire, voulaient qu'on sorte la Grèce de cette prison de la dette. Alors, je suis allé de capitale en capitale et j'ai essayé d'utiliser le pouvoir de la raison et de la persuasion pour démontrer aux créanciers que mes propositions étaient bonnes pour eux du point de vue financier. Et à mon avis, ils ont été à même de comprendre cela, mais récupérer leur argent, c'est pas ça qui les intéressait. Donc, vous dites que votre émission a pour thème les négociations. C'est très difficile, les négociations avec des gens qui ne veulent pas être remboursés de leur argent, avec des gens qui s'intéressent davantage à vous faire du mal pour envoyer un message important aux Espagnols, aux Portugais, aux Irlandais, aux Italiens et, au bout du compte, aux Français.
Quelle était votre prise sur les gens? Qu'est-ce que vous avez essayé d'utiliser comme arme, puisque vous n'aviez pas vraiment droit à la négociation? Est-ce que c'était d'afficher un point de vue éthique? Est-ce que c'était d'afficher un plan extrêmement rationnel?
All that. I tried to be.
Eh bien, les deux, mon capitaine. Si
la séduction.
Non. I don't believe in seduction.
Non, je ne crois pas à la séduction. Moi, je crois au pouvoir du raisonnement cartésien. Par ailleurs, j'ai utilisé tout l'espace possible du compromis. J'ai clairement dit que j'étais ouvert au compromis parce que le compromis, c'est l'essence de l'accord, de l'entente, sans pour autant se compromettre soi-même, évidemment. Et au-delà de cela, bien sûr, et c'est pourquoi j'ai été si mal aimé par l'establishment, j'ai également dit de façon claire que s'ils insistaient pour continuer leur business as usual, eh ben ils pourraient ne pas il fallait pas qu'ils comptent sur moi. Et ça, c'était une grosse menace, parce qu'il faut savoir que tous ces accords de prêt ne sont pas signés par le président de la République ou par le Premier ministre. C'est signé par le ministre des Finances de chaque pays. Donc, quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient en face de quelqu'un qui ne mettrait pas en bas de l'accord à sa signature pour faire semblant de continuer, et ils sont vite rendus compte qu'il fallait qu'ils se débarrassent de moi.
Petit à petit, comme dans tout bon roman policier, Yanis Varoufakis, le piège se referme et vous vous retrouvez dans des guet-apens, comme ce dîner secret avec le SPD. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette scène?
That dinner is the best.
Ce dîner constitue le meilleur exemple de l'errement de la démocratie sociale en Europe. Si vous voulez savoir pourquoi les socialistes ont disparu de la carte en France, pourquoi le SPD a été humilié lors des dernières élections en Allemagne, pourquoi la tradition sociodémocrate fait désormais partie de l'histoire, eh bien ce dîner, je mets tout ça en lumière. La veille, la veille du dîner avec Wolfgang Schäuble, j'ai dîné avec des représentants de Sigmar Gabriel, vice-chancelier. Et ces gens-là se sont présentés comme des camarades, des amis sociodémocrates, qui voulaient voir comment ils pouvaient aider, parce qu'ils étaient donc dans la coalition entre les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates. En résumé, ces gens-là ne faisaient pas cela du tout. C'était un piège. C'était un guet-apens. On était censé avoir cette réunion secrète. On m'a demandé de ne pas apporter mon téléphone portable avec moi. Lors des conversations dans une pizzeria à Berlin, le téléphone sonne.
Pas le vôtre, du coup.
Non, pas le mien, je ne l'avais pas sur moi. C'était Mario Draghi, donc chef de la BCE, et l'un de ses prétendus camarades sociodémocrates me donne le téléphone et dit « Ah, il y a Mario Draghi au téléphone qui veut vous parler. » Oh, c'était une réunion secrète. Mario Draghi savait qu'on était dans une pizzeria à Berlin avec ces gens-là. Pensez donc si c'était secret. Le but de cet appel, c'était de m'informer que tout le travail que j'avais réalisé au cours des derniers jours pour faire augmenter la bourse grecque de l'ordre de 12% en une journée, tout ça, ça allait être détruit par la BCE. La BCE annonçait que les banques grecques n'auraient plus de liquidité de la part de Francfort.
Là, ça va se précipiter jusqu'à votre démission. Et vous insistez dans votre livre sur l'importance du face-à-face dans la négociation, sur l'importance de se voir, de se parler, d'entendre les voix, l'importance du langage du corps.
Well, firstly, let me say that all those moves by the creditors,
tout ce qu'ont fait les créanciers, toutes ces menaces, toutes ces quasi-conspirations, tout ça, ça fait partie du jeu. Et je n'ai pas été surpris. C'est pas pour ça que j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que les créanciers ont réussi à opérer un clivage dans mon parti. Et quand votre propre parti est clivé et quand, évidemment, votre parti est faible, faiblesse et division égale défaite. S'agissant des réunions en face à face, vous avez tout à fait raison. C'est très important, particulièrement quand vous êtes en position de faiblesse. Vous êtes David et pas Goliath. L'absence de contact humain, ça ne fait qu'accroître le pouvoir d'effort.
Yanis Varoufakis, qu'est-ce qu'on peut dire de votre propre stratégie à vous? Celle d'avoir enregistré des conversations, celle d'avoir pris des notes dans des réunions à huis clos, celle d'écrire un roman à la première personne et de manière nominative en ce qui concerne les acteurs.
Il faut comprendre que je n'avais pas de stratégie. Quand je suis arrivé, mais après la première réunion de l'Eurogroupe, 10h30 de réunion, avec tous les regards sur moi. Donc j'ai été dans une chaise électrique pendant 10h30 lors de cette réunion de l'Eurogroupe. On me menaçait de fermeture des banques grecques dans les jours à venir. Imaginez le stress qui était le mien. J'avais cette responsabilité immense sur mes épaules et une nation grecque qui était là aux abois, qui attendait le résultat de cette réunion. Cette réunion, je ne l'ai pas enregistrée. J'ai quitté la salle et tout d'abord j'ai demandé à ma secrétaire, contactez le secrétariat s'il vous plaît, et parce que je voudrais le procès-verbal de la réunion. Parce que le lendemain matin, il fallait que je parle au Parlement grec, il fallait que je parle à mon cabinet et il fallait que je parle au Premier ministre Tsipras pour leur dire ce qui s'était passé à la suite de cette réunion et que je réponde aux questions. C'est normal, c'est une démocratie. Par conséquent, il me faut le procès-verbal parce que 10h30 de négociations et de discussions intenses, c'est difficile de se souvenir de tout. On peut avoir des idées un petit peu floues quand même. Et la secrétaire m'a dit, Monsieur le ministre, le secrétariat de l'Eurogroupe me dit qu'il n'y a pas de procès verbal et il n'y a pas de notes. Rendez-vous compte de cela. Les décisions qui ont une incidence sur votre vie, la vie de tout le monde, de vos auditeurs, de toutes les populations européennes, voilà des décisions qui sont prises à huis clos, et en plus on ne sait même pas ce qu'elles sont, ces décisions. Vous avez un vague petit communiqué, et alors là c'est l'opacité avec un O majuscule, alors que la transparence devrait être le premier pas vers la démocratie. Il n'y a pas de démocratie parce qu'il n'y a pas de transparence. En parallèle, mes adversaires à l'Eurogroupe fuiter à la presse des versions complètement déformées de mes propos. En tant que ministre des Finances d'un pays en faillite, on est à la merci des mensonges de ces gens-là, étant donné qu'il n'y a pas de procès verbal officiel, pas de note, rien. Ces gens-là peuvent dire n'importe quoi, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont fait tenir des propos que je n'avais jamais tenus. Et par conséquent, je me suis senti le devoir d'enregistrer ces conversations envers le peuple européen. Parce que On me critique pour avoir enregistré ces conversations. C'est moi qui ai dit que je le ferais. Pourquoi ? Pour vous défendre, vous, les citoyens d'Europe, de ces mensonges. Parce que au moment où j'ai commencé à dire que j'enregistrais tout, eh bien les mensonges ont cessé parce que je savais que je pouvais prouver ces mensonges. Quelle tristesse à propos des gouvernements européens.
Et c'est l'heure des nouvelles de l'écho. Monia Van de Castel, bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous.
La polémique.
Eh bien, la polémique, c'est celle autour de l'admission après le baccalauréat qui fait débat. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a promis une rénovation complète de cette procédure au doux nom de APB pour 2018. Alors, cette procédure est jugée comme étant incompréhensible par beaucoup. Certains la comparent à une véritable boîte noire, avec des critères beaucoup trop flous. C'est un processus qualifié d'inhumain qui est remis en cause.
Justement, de quoi s'agit-il ?
Eh bien justement, le système en question est tout sauf humain puisqu'il s'agit d'un algorithme qui consiste à dispatcher les élèves dans les établissements secondaires en fonction du nombre de places disponibles et aussi des critères de priorité. Avec bien sûr l'objectif de satisfaire autant que faire se peut les premiers vœux des bacheliers. Alors comment ce système APB fait-il correspondre les préférences des élèves avec les propositions de formation ? Eh bien il tourne avec deux critères de priorité. D'un côté les filières sélectives type classe prépa, IUT, grandes écoles qui acceptent ou refusent les candidats sur dossier et de l'autre les universités qui elles ne sélectionnent pas à l'entrée. Alors malheureusement il n'est pas rare que la demande de place à l'université soit supérieure à l'offre.
Comment les universités procèdent-elles justement à ce moment-là ?
Eh bien, une fois les places disponibles attribuées, les universités classent automatiquement les autres candidats en fonction des deux critères légaux qui existent, à savoir l'académie de l'élève et l'ordre de ses vœux. Ce qui est perçu comme inhumain, donc, c'est la décision d'un robot, en fait, qui ne motive pas sa décision et ce qui peut être très mal accepté par un étudiant déçu.
Donc, c'est pas n'importe quel algorithme ?
Alors, il ne s'agit pas de n'importe quel algorithme. En effet, ce type d'algorithme a été élaboré par les mathématiciens David Gale et Lloyd Shapley au début des années 60. Et ce dernier est considéré comme l'un des pionniers de la théorie des jeux. Il a même reçu le prix Nobel d'économie en 2012 pour ses travaux sur la façon de faire correspondre l'offre et la demande sur les marchés grâce à la théorie des jeux. Alors dans la théorie économique classique, offre et demande s'ajustent par les prix, mais cette procédure ne fonctionne pas sur tous les marchés. Et ainsi Lloyd Shapley a cherché à déterminer les conditions permettant d'obtenir les associations les plus stables et les plus efficaces grâce à cette théorie des jeux justement. Il a inventé l'algorithme de Gale Shapley qui permet de trouver une solution au problème des mariages stables. Alors en modélisant le marché du mariage, l'économiste a utilisé ce qu'on appelle la théorie des jeux coopératifs pour étudier et comparer plusieurs méthodes destinées à faire coïncider offre et demande. Donc l'algorithme permet en théorie de donner à chaque célibataire le meilleur conjoint et de stabiliser le marché avec des couples dans lesquels pas un homme ni une femme ne serait plus heureux en étant marié avec quelqu'un d'autre plutôt qu'en restant chacun avec le partenaire qui lui a été attribué par l'algorithme.
C'est très romantique.
Très romantique, vous l'aurez compris. Donc l'une des applications est l'affectation des étudiants dans les écoles, mais ça peut aussi servir pour affecter de nouveaux docteurs dans les hôpitaux ou encore à faire correspondre des organes à transplanter avec les receveurs. Bref, en ce qui concerne la procédure APB qui va d'ailleurs changer de nom, comme je vous le disais, la ministre de l'Enseignement supérieur a pris le dossier en main. Le process doit être revu de fond en comble. L'idée étant que la procédure soit toujours basée sur l'utilisation d'un tel algorithme, mais que celui-ci ne soit plus le seul à prendre les décisions. It comes around, no big deal. Yeah, here's the moon. Legs off still. Yeah, it comes right through the storm. Yeah, it comes around. It drills to black. Oh, here's the groom. Please don't look back. Yeah, it comes right through the storm.
Merci Yanis Varoufakis d'avoir été parmi nous. Je rappelle le nom de votre essai « Conversation entre adultes dans les coulisses secrètes de l'Europe » publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Je rappelle également que vous êtes le fondateur de DiEM25, un mouvement pan-européen qui vise à démocratiser le fonctionnement de l'Union européenne. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site de France Culture et vous abonner au podcast de l'émission. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter @mbesserie, hashtag entendez-vous l'écho, et sur Facebook. Demain, on se retrouve pour parler justement de la théorie des jeux. Someone